7. Vint ensuite ce que les poètes et les musiciens appellent une césure. L'état de radar continua à, je ne dirais pas à s'améliorer, mais du moins ressemblait-elle davantage à la chienne que j'avais découvert le jour où M. Bodditch était tombé de l'échelle, même si, le matin, elle avait encore du mal à se lever de son tapis et à marcher jusqu'à sa gamelle. L'état de M. Bodditch, lui, s'améliorait pour de bon. Il avait arrêté l'oxy et troqué son unique béquille contre une canne dénichée dans un coin du sous-sol, où il avait repris son puzzle. Quant à moi, j'allais au lycée, je passais du temps avec mon père et encore plus au 1 Sycamore Street. L'équipe de football des Hedgehogs avait commencé la saison par 3 défaites pour 0 victoire, et mes anciens coéquipiers ne me parlaient plus. C'était moche, mais j'avais trop de choses en tête pour me laisser abattre. Plusieurs fois, généralement pendant que M. Bodditch faisait la sieste dans le canapé-lit qu'il utilisait encore pour pouvoir rester près de radar, j'ouvris le coffre-fort pour plonger les mains dans le seau d'or. Toujours surpris par le poids des pépites, je les laissais couler entre mes doigts en fin ruisseau. Dans ces moments-là, je songeais aux paroles de M. Bodditch concernant la fascination de l'or. Je méditais sur ce sujet, pourrait-on dire. Mélissa ne venait plus que 2 fois par semaine et elle s'émerveillait des progrès de son patient. Elle l'informa que le docteur Patterson, l'oncologue, souhaitait le voir. Mais M. Bodditch refusa, affirmant qu'il se sentait bien. Je le prenais au mot, non pas parce que je le croyais, mais parce que je voulais y croire. Je sais maintenant que les malades ne sont pas les seuls à vivre dans le déni. Une période de calme. Une césure. Puis, tout se produisit presque en même temps. Et dans le lot, aucune bonne surprise. 8. J'avais 1 heure de perme avant le déjeuner. En général, j'allais à la bibliothèque pour faire mes devoirs ou lire un des vieux romans aux couvertures tape à l'œil de M. Bodditch. En cette journée de fin septembre, j'étais plongé dans « The Name of the Game is Death » de Dan J. Marlowe, magnifiquement sanglant. À 12:15, je décidai de garder le suspense de la fin pour mon orgie de lecture du soir et pris un journal au hasard. Il y avait des ordinateurs à la bibliothèque, mais l'accès au quotidien était payant. Et puis, j'aimais bien l'idée de lire les infos dans un vrai journal. Je trouvais ça délicieusement rétro. J'aurais pu choisir le New York Times ou le Chicago Tribune, auquel cas je serais passé à côté de cet article, mais le journal posé sur le dessus de la pile était le Daily Herald d'Elgin. Et c'est celui que je pris. La une était consacrée à Obama, qui souhaitait intervenir militairement en Syrie, et à une tuerie survenue à D.C., qui avait fait 13 morts. Je survolais ces 2 articles, jetais un coup d'œil à la pendule, 10 minutes encore avant le déjeuner, et feuilletais le journal pour accéder à la page des bandes dessinées. Mais je n'allais pas jusque-là. Un article publié en page 2 de la section info locale m'arrêta net. Littéralement. Un bijoutier de Stantonville assassiné. Un homme d'affaires vivant depuis longtemps à Stantonville a été retrouvé mort dans sa boutique Excellent Jewelers la nuit dernière. La police avait été alertée par un appel téléphonique signalant que la porte de la boutique était ouverte alors que la pancarte fermée était suspendue à l'intérieur. L'officier James Kotzivinkel a découvert le corps de Wilhelm Heinrich dans l'arrière-boutique, dont la porte était ouverte elle aussi. Interrogé pour savoir si le mobile était le vol, le chef de la police de Stantonville, William Yardley, a déclaré « Bien que l'enquête se poursuive, le doute n'est guère permis. » Quand on leur demande si quelqu'un a entendu des bruits de bagarre ou peut-être même des coups de feu, le chef Yardley et l'inspecteur Israel Butcher de la police d'État de l'Illinois se refusent à tout commentaire, se contentant de souligner que la plupart des commerces situés à l'extrémité ouest de la rue principale sont inoccupés depuis l'ouverture du centre commercial à la périphérie de la ville. Excellent Jewelers constituait une exception notable. Yardley et Butcher promettent une résolution rapide de cette affaire. La cloche du déjeuner sonna, mais je restais collé sur ma chaise. J'appelais M. Boditch.
« Si vous êtes un démarcheur, rayez-moi de votre liste !»
répondit-il de la manière habituelle. « C'est moi, Howard. Monsieur Heinrich a été assassiné !» Un long silence. Puis...
« Comment tu le sais ?»
Je regardais autour de moi. Il était interdit de manger à la bibliothèque et par conséquent, j'étais seul à cette heure-ci. Alors je lui lus l'article. Ce ne fut pas long.
« Merde !»
lâcha M. Boditch, ma lecture terminée.
« Où est-ce que je vais vendre mon or maintenant ? C'était mon contact depuis presque 25 ans. »
Aucune compassion, aucune marque d'étonnement, autant que je pouvais en juger. « Je vais faire des recherches sur Internet. »
« Avec prudence et discrétion. »
« Oui, évidemment. Je serai la prudence même. Mais il me semble que vous passez à côté de l'essentiel. Vous avez traité une grosse affaire avec cet homme, une énorme affaire. Et maintenant, il est mort. Si quelqu'un lui a soutiré votre nom, en le torturant ou en promettant de lui laisser la vie sauve... »
« On n'est pas dans un de mes vieux romans policiers, Charlie. Tu as vendu ces 3 kilos d'or pour moi en avril dernier. »
« Ça ne date pas du Moyen-Âge ?» Il ne releva pas.
« Je n'aime pas rejeter la faute sur les victimes, mais il refusait de fermer sa boutique dans ce bled pourri. La dernière fois que j'ai traité avec lui en personne, 4 mois environ avant que je tombe de l'échelle, je lui ai dit « Vili, si vous ne fermez pas cette boutique pour aller vous installer dans le centre commercial, vous allez vous faire cambrioler !» C'est ce qui s'est passé, et il s'est fait tuer par-dessus le marché. Pas la peine d'aller chercher midi à 14h.
N'empêche, je serais plus rassuré si vous descendiez votre arme.
Si ça te rassure, d'accord. Tu passes après le lycée ?
Non, j'avais prévu d'aller à Stantonville pour essayer d'acheter du crack.
L'humour des jeunes d'aujourd'hui est vulgaire et rarement drôle.
Dit Monsieur Boditch et il raccrocha. Le temps que j'arrive au réfectoire, il y avait déjà 1 kilomètre de queue et l'infâme bouillie qui nous servait devait être froide. Je m'en fichais. Je pensais alors. Monsieur Boditch disait qu'à son âge, ce n'était plus qu'un sourd métal ordinaire. Peut-être, mais je me disais qu'il mentait. Ou bien qu'il était hypocrite. Sinon, pourquoi en aurait-il eu autant ? 9. On était mercredi. Je m'abonnais au journal d'Elgin afin de le recevoir sur mon téléphone, et le vendredi, je découvris un second article en première page de la section locale cette fois. Un habitant de Stantonville arrêté dans l'enquête sur le cambriolage et le meurtre du bijoutier. L'homme en question, un certain Benjamin Dwyer, âgé de 44 ans, était présenté comme sans domicile fixe. Un sans-abri, autrement dit. Le propriétaire de la boutique de prêt sur gage de Stantonville avait alerté la police lorsque Dwyer avait tenté de mettre au clou une bague en diamant d'une valeur considérable. Au poste, on avait trouvé sur lui un bracelet serti d'émeraude. La police s'était étonnée, à juste titre, de voir de tels objets en possession d'un individu sans domicile fixe.
« Alors, tu vois bien ?»
me dit M. Boditch quand je lui montrais l'article.
« Un idiot commet un crime idiot et se fait arrêter en essayant de monnayer son butin de manière idiote. Ça ne ferait pas une très bonne histoire policière. Hein ? Même pour un roman de gare. »
« Non, en effet. »
« Tu as l'air contrarié, malgré tout. »
On était dans la cuisine et on regardait Radar manger son repas du soir.
« Un coca va arranger ça. »
Il se leva et alla ouvrir le réfrigérateur en boitant à peine. Je pris le coca, mais il ne parvint pas à me réconforter. Son arrière-boutique débordait de bijoux. Il y avait même une tiare avec des diamants, comme on porterait une princesse pour aller au bal. Monsieur Boditch haussa les épaules. Pour lui, l'affaire était classée.
« Tu es parano, Charlie. Le vrai problème... c'est de savoir quoi faire d'une partie de l'or qui me reste. Concentre-toi sur cette question.
Mais... avec discrétion, je sais.
Le vrai courage, c'est la prudence,
dit-il en hochant la tête d'un air solennel. Quel rapport ?
Aucun.
Il m'adressa un grand sourire.
J'avais juste envie de prononcer cette phrase.
10. Ce soir-là, j'allais sur Twitter pour chercher des infos concernant Benjamin Dwyer. Je tombais sur une poignée de tweets consacrés à un compositeur irlandais. Alors je tapais « Dwyer accusé de meurtre ». Cette fois, j'obtins une demi-douzaine de réponses. Le chef de la police de Stantonville, William Yardley, se félicitait de cette arrestation rapide. Dans un autre tweet, une personne se faisant appeler « Punkette44 » se montrait aussi prévenante et attentionnée, comme il fallait s'y attendre sur Twitter. « J'ai grandi à Stantonville. C'est naze. Ce Dwyer pourrait buter tout le monde dans ce bled, il rendrait service à la planète. » Mais celui qui attira mon attention était signé « Bullguy19 ». Benji Dwyer, accusé de meurtre, me fait pas rire. Il zone dans ce trou à rats depuis 1000 ans. Il devrait se faire tatouer, idiot du village, sur le front. Je me promis de montrer ce message à M. Bowditch le lendemain, en suggérant que si Bullguy19 avait raison, cela faisait de Benji Dwyer le bouc émissaire idéal. Hélas, je n'en eus pas l'occasion.